Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 17 avril 2019. Quand on regarde les performances des indices hier en fin de journée, ça ne donne pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose de passionnant. Et pourtant, ça commence à bouger. Et quand on creuse un peu le sujet, il y a quand même un peu plus de choses à dire que la veille. Sauf que pour le moment, on n'est quand même pas plus avancé qu'avant. Tout d'abord, l'Europe a encore terminé en hausse. Autant parfois on a de la peine à comprendre, autant hier, l'ensemble des investisseurs avaient une bonne raison de se réjouir. Le ZEW. En gros, le ZEW, je vous épargnerai la traduction en allemand, c'est le sondage de la confiance des investisseurs en Allemagne. Et il existe la même version pour l'Europe entière. C'est un institut qui est basé à Leibniz, au sud de Francfort, et qui est un sondage effectué auprès de 300 à 350 analystes financiers afin de savoir quelles sont leurs attentes sur l'économie européenne et allemande. En essayant de résumer objectivement la chose, on interroge chaque mois 350 types qui sont la plupart du temps faux sur leurs prédictions le reste de l'année afin de savoir ce qu'ils pensent de l'avenir économique tout en sachant qu'ils n'en savent pas plus que vous et moi. Ensuite, on publie un chiffre qui donne aux bourses européennes envie d'aller en haut ou en bas. Autant vous dire qu'intrinsèquement, le ZEW a presque autant de valeur que le lancer de fléchettes sur la liste des membres du DAX pour déterminer son portefeuille boursier pour la retraite. Mais peu importe, on y croit de temps en temps. Et hier, les 350 types, qui sont généralement faux, s'attendaient à un chiffre relativement faible sur le résultat de leur propre sondage. Sauf qu'ils se sont gourés sur leurs propres sentiments, sentiments qui étaient nettement meilleurs que les attentes. Et les marchés européens ont donc terminé en hausse à cause de ça. Vous reconnaîtrez que présenté comme ça, ça fout la trouille. De l'autre côté de l'Atlantique, on s'est concentré sur les chiffres du trimestre et sur les règlements de compte. Côté règlement, c'est surtout Apple et Qualcomm qui ont décidé de résoudre leurs disputes sur fond de processeurs pour la 5G. Depuis plus de 2 ans, les deux sociétés se battaient en justice pour pas grand chose, si ce n'est pour sponsoriser le train de vie onéreux d'une troupe d'avocats. Hier, ils se sont mis d'accord une fois pour toutes et Apple va donc utiliser les chips de Qualcomm pour leurs appareils qui seront équipés 5G. Aucun terme financier n'a été publié, mais on s'attend à une augmentation massive des revenus chez Qualcomm et une baisse de train de vie chez les avocats. Le titre s'envolait de 23% durant la séance. Pour le reste, on ne parle plus de trade deal puisque les gens étaient bien plus concentrés sur savoir si Trump avait eu raison d'encourager l'utilisation des bombardiers d'eau pour éteindre l'incendie de Notre-Dame qu'autre chose. Mais pendant ce temps, Bank of America a publié des chiffres décevants, ne laissant plus que Morgan Stanley comme candidat à la publication dans le secteur. Et ailleurs, Johnson & Johnson ont battu les attentes pendant que United Health décevait également. Ensuite, on a tourné nos regards sur les chiffres de Netflix et d'IBM qui devaient publier leur trimestre après la clôture. D'un point de vue indiciel, le S&P 500 a terminé en hausse de 1,5 point, se rapprochant très lentement de son record historique. Le Dow Jones qui n'a rien foutu et le Nasdaq était bien plus fort que le reste, merci Qualcomm. Mais c'est ailleurs qu'il fallait regarder, en direction du SOX, le Philadelphia Semiconductor Index, qui regroupe la plupart des grosses baleines du secteur. Une des croyances boursières de ces 20 dernières années, et une dont j'ai presque fait religion, est de croire que si le SOX va, tout va, et que ce dernier a tendance à montrer la voie au reste du marché. On dit qu'il bouge toujours avant les autres pour montrer la bonne direction. Si cela est vrai, et je suis presque convaincu que c'est le cas, cela fait près de 2 semaines qu'il ne cesse de battre des plus hauts historiques. Hier soir, avec Qualcomm, c'était pire. L'indice terminait en hausse de plus de 3%, laissant imaginer ce que ça pourrait donner sur le S&P 500 lorsque lui aussi aura franchi la limite du plus haut de tous les temps. Objectif qui est 1,5 point moins loin ce matin qu'il y a 24 heures. Ce matin, en Asie, on digère les nouvelles publiées tard dans la nuit ou tôt dans la journée. Le Japon a publié son premier déficit commercial en 3 ans et l'indice est en hausse de 0,3%. Pendant que Hong Kong recule d'autant et que la Chine ne fait rien. La Chine qui a publié un GDP en hausse de 6,4%, alors que les mêmes analyses que l'on a sondées sur le ZEW pensaient qu'il sortirait à 6,3%. Globalement, c'est donc meilleur que les attentes. Mais pour être franc, ce n'est que moyennement enthousiasmant parce que c'est en même temps le GDP trimestriel le plus faible enregistré depuis 2009 en Chine. Les plus optimistes diront donc que c'est triste, alors que ceux qui voient le verre à moitié plein diront que ça commence à bouger et que quand le trade deal sera dans la poche, ça sera encore mieux. Je n'ai jamais rien compris alors, ou pas grand-chose, mis à part que tout le monde en veut quand ça va mal, parce qu'apparemment c'est reposant pour l'esprit de dormir sur un oreiller en lingots. Mais en ce moment, alors que tout va bien, mais que tout le monde nous prédit que ça ira moins bien, l'or n'est plus trop à la mode, et chaque jour qui passe semble peser lourdement sur ses épaules. Actuellement, il lutte pour sa survie et pour tenir le niveau des 1280, sachant qu'une rupture de ces niveaux pourrait l'emmener bien, bien plus bas. Pour le moment, on prie. Comme pour Notre-Dame, bien que visiblement elle n'ait plus jamais besoin ni d'or ni d'argent, étant donné toutes les bourses de milliardaires qui se sont déliées ces dernières heures. Côté pétrole, on semblait s'enthousiasmer au sujet des tensions au Venezuela et en Libye, sans compter que l'on y rajoute aussi un soupçon d'encouragement lié à la relative bonne santé économique en Chine. Actuellement, le baril se traite à 64,45 et se rapproche dangereusement de mon objectif de 65. Dans les nouvelles du jour, on parle des chiffres de Netflix. Le roi du streaming a annoncé 9,5 millions de nouveaux abonnés. Ça, c'était avant l'arrivée de Disney sur leur plate-bande, et des chiffres meilleurs que les attentes et meilleurs que l'an dernier. Cependant, après clôture, le titre perdait 5% parce que les perspectives du management de Netflix pour le reste de l'année sont en dessous de celles des analystes. Et comme on sait qu'un analyste a toujours raison, il fallait symboliser la déception. Chez IBM, il y avait aussi déception. Les revenus étaient plus faibles que les attentes et le titre reculait de 1,3% après la clôture. Ailleurs, on notera aussi que Jack Dorsey, le patron de Twitter, voudrait forcer ses utilisateurs à suivre des sujets et non pas des personnes. Étant donné l'ego de certains qui ont mis des années à être populaires sur le réseau, cela va donner lieu à de grosses levées de boucliers. On devrait pourtant réussir à s'en remettre, mais même si psychologiquement, ça sera très très dur à encaisser. Aujourd'hui, on attendra le CPI anglais, italien et européen. Il y aura aussi la balance commerciale américaine, le benchbook et les inventaires pétroliers. Côté chiffres du trimestre, il y aura Abbott, Morgan Stanley, ASML, Pepsi Cola, Ericsson, Textron, E-Trade et Alcoa pour les plus gros. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,14%, se rapprochant subrepticement des records. Voilà, c'est tout pour ce matin. Encore un jour et c'est les vacances. En attendant, passez une très belle journée et on se revoit demain.